Le Club des idées sur France Inter en compagnie de Laurent Geoffrin de Libération, de Guillaume Perrault du Figaro et de Laurence Luret de France Inter. Bonjour.
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 L'invention tragique du Moyen-Orient, c'est le titre de l'essai dont vous allez parler. Il est signé Jean-Paul Chagnolo et Pierre Blanc. Laurence.
Oui, Patricia, jour de scrutin oblige, on ne parlera pas politique française ce matin. L'occasion de faire un tour du côté du Moyen-Orient pour tenter de mieux comprendre le bras de fer actuel entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour le leadership régional, avec ce petit livre très pédagogique écrit par deux spécialistes du Moyen-Orient, Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnolo, qui nous expliquent que la violence au Moyen-Orient découle de ce qu'ils appellent son invention tragique. Laurent Geoffrin pour Libération. Alors, pour les auteurs, la reconfiguration territoriale et politique opérée dans les années 1920, ça c'est pour les auditeurs, fait partie des origines essentielles de la tragédie actuelle. Des frontières nouvelles ont divisé les peuples et ces États, créés de toutes pièces, ont mis en place des régimes autoritaires. Qu'en pensez-vous ?
C'est un bon bouquin parce qu'il permet effectivement, vous l'avez dit, de comprendre mieux l'actualité qui est en cours au Moyen-Orient. Alors ça s'étale sur un siècle, ça essaye de démêler une situation qui est passablement enchevêtrée, et c'est très utile. Il y a néanmoins une thèse, c'est pas seulement pédagogique, c'est que effectivement ils assignent l'origine des conflits, pour une bonne part, à l'action pernicieuse des Occidentaux. Et donc, quand on lit ça, on se sent pas très bien. On se dit, qu'est-ce qu'on a fait ?
Et effectivement, la France et la Grande-Bretagne.
La France et la Grande-Bretagne, principalement, les États-Unis aussi après, notamment à cause du pétrole. Mais la France et les États-Unis ont joué un rôle très très néfaste. Enfin, on va y revenir, mais c'est très frappant.
Guillaume Perrault, votre avis pour Le Figaro ?
C'est un livre intéressant, en effet, riche, souvent nuancé. Il a un aspect manuel, il y a beaucoup de cartes. Donc c'est une lecture très utile, j'ai beaucoup appris pour ma part. En effet, il y a une thèse, et c'est là cette thèse appelle un débat, que les Britanniques et les Français, au lendemain de la Grande Guerre, par le découpage artificiel de la région qu'ils ont opéré en fonction de leurs intérêts, portent une responsabilité dans les conflits qui ont suivi, c'est l'évidence. Là où c'est plus litigieux, c'est qu'il me semble que les auteurs, vous l'avez dit, font peser sur ce facteur une responsabilité prépondérante dans les drames actuels. Or, à mesure qu'on progresse dans la lecture du livre, on voit que il y a des facteurs de tension considérables dans chacun des pays actuels du Proche-Orient, facteurs de tension qui existaient avant l'intervention des Occidentaux en 1918-1919. Donc, je suis tout disposé à concéder que les Occidentaux ont eu un rôle néfaste et ont aggravé ces problèmes, mais ils ne les ont pas créés. Et c'est comme si les faits que les auteurs avançaient, ils contredisaient presque leur propre thèse initiale.
Moi, je crois qu'ils la complètent, en fait, parce que il faut aller revoir ce film formidable qui s'appelle Lawrence d'Arabie, qui explique beaucoup de choses. Et effectivement, là, ils ont raison, vous le reconnaissez, c'est que au moment de la guerre de 14, comme les Anglais et les Français se battaient contre les Allemands et contre l'Empire Ottoman, ils ont suscité, favorisé la révolte arabe. C'est ce qu'on voit dans le film Lawrence d'Arabie. Et ensuite, ou pratiquement au même moment, ils se sont mis d'accord entre deux diplomates qui étaient mandatés par chacun par leur gouvernement, qui s'appelaient Sykes pour les Anglais et Picot pour les Français, pour se partager le même territoire qu'ils ont promis, surtout les Anglais d'ailleurs, qui sont promis au shérif Hussein de la Mecque, donc aux représentants des peuples arabes de la région, qu'ils ont promis aussi aux Juifs du Yishuv, c'est-à-dire les implantations juives qui s'étaient déjà développées avant la guerre, et qu'ils ont promis entre eux, chacun en se partageant, l'un prend l'Irak et la Palestine, l'autre la Syrie et le Liban. Et donc c'est la même terre qui a été promise à trois ou quatre peuples différents, ou trois ou quatre États différents. En plus, juste après la guerre, ils ont laissé entendre qu'ils allaient faire droit à un certain nombre de revendications nationales, celles des Kurdes, celles des Arméniens et celles des Palestiniens. Et ces trois revendications, aucune n'a été satisfaite, sinon un peu pour les Arméniens, qui ont actuellement un petit État dans l'ancienne Union soviétique. Mais les Palestiniens n'ont pas eu ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire un État, et les Kurdes non plus. Et donc la situation actuelle, alors évidemment avec les Palestiniens et les Israéliens on connaît très bien, les Kurdes on avait un peu oublié à l'Ouest, et on voit que les Kurdes jouent un rôle important dans la bataille contre Daesh.
Oui, ce qui me paraît intéressant dans ce livre, c'est aussi l'analyse vraiment éclairante du fonctionnement du régime syrien et du fonctionnement du régime irakien à l'époque de Saddam Hussein. Un régime autoritaire dans les deux cas, où le chef fait partie d'une communauté qu'il prend en otage. Il force sa communauté, les Alaouites, dans le cas d'Assad, père et fils en Syrie, par exemple, à le soutenir et à, dans une relation de solidarité puis de chantage un peu affectif aussi, avec cette communauté, puis de clientélisme, les auteurs ont l'expression de glacis que la communauté du chef est contrainte de former autour du régime, qui me paraît assez éclairante. Et ce que disent aussi les auteurs, pour nuancer l'idée qu'il y aurait une fatalité dans cette situation, c'est qu'en Jordanie, il n'y a pas une situation aussi tendue et aussi dramatique. Donc tout ça pour dire que, naturellement, le traité de Versailles et tous les petits traités périphériques conclus au lendemain de la Grande Guerre ont eu un rôle très important dans les drames actuels, mais ce n'est qu'un facteur parmi d'autres.
Alors j'aimerais votre réaction à tous les deux à une phrase du livre. J'ouvre les guillemets. « Comme pour renvoyer à l'Occident ses responsabilités dans l'avènement des malheurs du monde arabe, Daesh oblitère en 2014 la frontière entre la Syrie et l'Irak, signifiant ainsi la fin des accords Sykes-Picot de 1916. » Vous en parliez tout à l'heure, Laurent Geoffrin. Tout en soulignant le caractère un petit peu erroné de cette interprétation, les auteurs la relèvent quand même. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est pas fou.
Alors je précise, pardon, de cette interprétation de Daesh.
Projet initial qui avait été la revendication donc de celui qu'on voit dans Laurence d'Arabie, qui est joué par Alec Guinness, qui est le shérif Hussein de la Mecque, c'était de constituer un vaste royaume arabe qui comprenait l'ensemble de ces pays, l'Irak, la Syrie, la Palestine, le Hejaz, et une partie de la péninsule arabique. Et donc, cette revendication a été facilitée par Lawrence, qui était l'agent anglais, et implicitement approuvée, d'une certaine manière, par le gouvernement britannique. Et la promesse non formulée, mais qui était quand même dans le deal, a été rompue immédiatement. Et après, il y a eu des révoltes arabes en Irak et en Syrie, qui ont été réprimées de manière extrêmement brutale. Et donc, les aspirations nationales des peuples arabes ont été contredites brutalement par les Occidentaux, après des promesses inverses. Et ensuite... Alors bon, ça c'est pour les Français et les Anglais, mais maintenant c'est plutôt les Américains qui jouent le rôle principal.
Et les Russes.
Et ensuite les Russes. Les Russes, ils étaient là depuis longtemps. Mais les Américains sont venus en 44-45, quand Roosevelt a passé une alliance avec les monarchies du Golfe, pour des raisons de sécurité des approvisionnements pétroliers. Et donc Daesh reprend effectivement la vieille revendication du shérif de la Mecque.
Guillaume Perrault.
Oui, mais cette vieille revendication du shérif de la Mecque, si en 1918-1919, les Libanais par exemple, enfin en tout cas les chrétiens et même les druzes, d'après ce que j'ai cru comprendre du livre, ne la soutenaient pas du tout et ne voulaient pas être assujettis à cette souveraineté-là, à cette autorité-là. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement des clivages artificiels qui auraient été imposés de l'extérieur. Les tensions internes entre communautés et religions préexistaient, étaient très fortes. Et d'ailleurs, en conclusion, les auteurs, lorsqu'ils se permettent certaines recommandations, restent très généraux et un peu décevants. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut respecter les droits individuels et collectifs, ça, personne ne va dire le contraire. Il ne faut pas imposer par la force d'une puissance extérieure un règlement. Et voilà les recommandations qu'ils ont en conclusion. On n'est pas très avancé, on ne peut qu'approuver, mais ça reste très général. Donc on ferme le livre instruit, on a appris beaucoup de choses et pas plus optimiste.
Le livre, c'est donc l'invention tragique du Moyen-Orient. Laurence Duret, votre point de vue?
Eh bien moi je dirais aux éditeurs que si vous ne comprenez plus rien dès qu'on parle de la Syrie, de l'Iran ou de l'Irak, eh bien ce livre est fait pour vous en 156 pages et deux grandes parties. Jean-Paul Chagnolot et Pierre Blanc, tous deux spécialistes du Moyen-Orient, nous permettent d'y voir plus clair dans ce qu'ils nomment l'invention tragique du Moyen-Orient, rappelant les circonstances, je cite, d'un accouchement traumatique à partir de 1916, conséquence de la Première Guerre mondiale et de l'effondrement de l'Empire ottoman, ce qui explique ensuite les trajectoires funestes de ces pays jusqu'à aujourd'hui. La France et la Grande-Bretagne sont historiquement, avec les accords Sykes-Picot, on en a un petit peu parlé, les grands traceurs de frontières d'une région considérée alors comme stratégique. Des pays ont été créés arbitrairement, rappellent les auteurs, comme la Syrie, l'Irak, la Jordanie, le Liban, tandis que des peuples, les Kurdes, les Palestiniens, ont été oubliés. Et un siècle plus tard, ajoutent les auteurs, au gré des influences étrangères, américaines ou russes, mais pas que, à chaque fois dévastatrices, les malheurs s'y accumulent. Car il y a la question des territoires, bien sûr, mais aussi celle de populations très différentes d'un point de vue religieux, communautaire, ethnique. Ceci explique sans doute la décomposition actuelle et l'échec de la construction d'États non autoritaires avec une cohérence nationale. Alors c'est un livre très pédagogique, remarquablement synthétique, avec des cartes tout en couleurs, on l'a dit, où l'effort de lisibilité est constant. C'est un livre qui ne jargonne pas, accessible donc à tous. Un ouvrage qui montre bien comment la question de la frustration, du ressentiment traverse l'histoire. Un livre, je dirais, salvateur pour ceux qui n'y connaissent rien, pour comprendre le conflit en Syrie ou pourquoi l'Arabie Saoudite et l'Iran se disputent actuellement le leadership régional.
Le titre, les auteurs et l'éditeur, s'il vous plaît.
Alors, l'invention tragique du Moyen-Orient de Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnolot, et c'est publié aux éditions Autrement.
Merci Laurence Luret, Guillaume Perrault et Laurent Geoffrin. À la semaine prochaine.
À dimanche.